Europa Voice numéro 142. Allez, comme à l'habitude, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, on va parler d'Europe, bien entendu, mais on va se concentrer sur des élections importantes en France, parce que ça va quand même donner le ton sur pas mal de choses en Europe. Vous l'avez très certainement suivi dans l'actualité. En France, élections législatives, deuxième tour des élections législatives ce dimanche. Nathanaël Bloch, autant dire que c'est un peu compliqué tout ce qui s'est passé en France ces derniers temps quand même.
On n'attendait pas, Christophe, ces élections législatives après les élections européennes. Donc, c'est le premier point. C'est-à-dire que les Français retournent aux urnes, en fait, trois fois en l'espace d'un mois, hein, pour le seul tour des élections européennes, puis après, pour les deux tours des élections législatives, sachant qu'ils retournent aux urnes après le délai minimum d'appel anticipé de ces élections législatives, et surtout avec, très peu de temps aussi, également, entre les deux tours de ces élections législatives, puisqu'il y a une semaine en fait entre ce premier et ce second tour en France. Donc effectivement, c'est une période très chargée. Et puis le contexte global, qui est celui d'une dissolution de l'Assemblée nationale, évidemment crée aussi une atmosphère qui est hors du commun pour des élections législatives qui, rappelons-le, pour nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, d'habitude arrivent notamment depuis l'alignement des calendriers présidentiels et législatifs. Normalement, ces élections, elles arrivent quelques semaines après les élections présidentielles pour confirmer, pour donner une majorité au président. Et puis, évidemment, là, en dissolvant cette assemblée législative, cette assemblée nationale, il est évident que les Français ne vont pas très certainement, enfin, c'est sûr, donner une majorité au président Emmanuel Macron.
Voilà, alors les sondages ne peuvent pas se tromper à ce point-là, hein, c'est clair. On pense déjà savoir que le camp présidentiel sera sûrement hors de possibilité d'atteindre justement la majorité parlementaire. Ce qui est important aussi de savoir, c'est de se rappeler qu'il ne pourrait pas y avoir de nouvelles élections législatives avant au moins un an, puisque de toute façon, au niveau de la loi, quand il y a eu une dissolution, on ne peut pas relancer une dissolution un an, je crois, il me semble. Après cette-là. Donc, au moins, déjà, les Français n'iront pas voter dans la prochaine année pour ce sujet-là.
Non, effectivement, Christophe, vous l'avez bien mentionné, le président doit attendre, s'il veut de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale, ça doit se faire dans un laps de temps qui est de minimum d'un an, donc ce ne sera pas avant juin 2025.
Donc, bon, c'est déjà ça, juin 2025. OK, les forces en présence. Il y a le Rassemblement national qui, au lendemain de l'élection européenne, se semblait être finalement tout puissant. Et puis au fil des semaines, ça s'est un petit peu quand même égrené, malgré un premier tour très, 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 très sérieux. Aujourd'hui, à quelques jours de l'élection, les sondages tentent à montrer qu'ils n'auraient pas forcément une majorité complète pour pouvoir gérer le pays, du fait même qu'il y ait un nouveau Front populaire de l'autre côté qui s'organise. Donc on sent bien que c'est là, on est vraiment au cœur d'une bataille politico-politicienne.
Alors, les sondages, là, Christophe, à ce niveau-là, à ce moment-là de l'élection, j'allais dire, on peut avoir tout et son contraire. Là, s'il y a un institut de sondage qui vous dit avec de manière très assertive, ça va être ça, les résultats, c'est évidemment à prendre avec des pincettes. Non, ce qu'on peut dire, en fait, sur les résultats de ce premier tour et sur ce qui semble se dessiner, c'est que d'abord, premier élément, effectivement, entre les premiers résultats annoncés au soir du premier tour et l'ensemble des résultats dépouillés et des scores totaux, le score global du Rassemblement national est passé d'à peu près 33-34% à 29%. Et de manière parallèle, le score du nouveau Front populaire a lui légèrement augmenté d'après 27%. À un peu moins de 29%. Donc, ce que ça veut dire, c'est d'abord qu'en fait, le nombre de voix, le nombre de votes qui ont été donnés au Rassemblement national et au Nouveau Front populaire, si on prend la France comme une seule et grosse circonscription, le nombre de votes est à peu près similaire. Donc, ça, c'est le premier élément qui est assez intéressant parce qu'il n'y a pas cette archi-domination du Rassemblement national. Maintenant, comme on est dans un scrutin à deux tours, uninominal à deux tours, en fait, avec les projections et avec aussi les désistements qu'il y a eu pour ce second tour, le Rassemblement national, lui, est toujours donné en tête. Mais comme vous l'avez mentionné, effectivement, on n'est pas forcément certain que le Rassemblement national arrivera à avoir une majorité absolue qui, je le rappelle, est de 289 sièges à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a 577 députés qui sont élus. Donc la vraie question, le vrai enjeu de, j'allais dire, des résultats, au-delà de savoir qui va être le premier parti de France représenté à l'Assemblée nationale, c'est est-ce qu'un parti, en l'occurrence sur l'Assemblée nationale, aura une majorité absolue, et s'il n'a pas, de combien de sièges supplémentaires parmi des alliés potentiels il a besoin pour arriver à constituer une alliance lui donnant une majorité à l'Assemblée nationale. Et puis de l'autre côté, avec la NUPES, un des problèmes, un des problèmes, c'est qu'en fait, il y a très peu de réserves de voix, puisque le nouveau Front Populaire est déjà une alliance de 9 partis, du nouveau parti anticapitaliste, aux communistes, à la France Insoumise, à Place Publique, au PS. Donc, même s'ils font un bon score à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils arriveront encore à s'allier avec d'autres groupes pour obtenir cette majorité? La réponse est très certainement non. Et donc, il reste que le bloc central, mais même question, le bloc central est quand même fragmenté des républicains non alignés sur Ciotti jusqu'à peut-être certains modérés de la gauche. Même question, on est très loin d'avoir une alliance qui permettrait à un bloc central d'avoir une majorité également à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une vraie incertitude, j'allais dire, sur la viabilité de la prochaine Assemblée nationale pour Emmanuel Macron.
Et en plus, bon, on va rajouter un peu dans tout ça, mais il y a quand même les Jeux Olympiques qui arrivent. Il y a un besoin de sécurité. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont très importantes pour le gouvernement français qui, normalement, part en vacances à cette période-là. Donc, est-ce qu'on peut attendre à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement nommé très rapidement dans la foulée de ce qui s'est passé ou ce qui va se passer dimanche? Ou est-ce que là, du coup, le président peut aussi se dire, attendre, consulter, on verra ça en septembre, laissons passer les JO et conserver une sorte de statu quo avec le gouvernement actuel, donc, c'est-à-dire ne pas dissoudre le gouvernement actuel aujourd'hui, ne pas accepter la démission de Gabriel Attal s'il la soumet tout de suite, pour se donner le temps de réfléchir, mais aussi surtout pour passer ce cap des JO. Est-ce que c'est une vraie possibilité, ça?
C'est tout à fait, Christophe, une vraie possibilité. Rien n'oblige le président de la République à nommer un nouveau Premier ministre et après composer un nouveau gouvernement. Il peut y avoir une période de transition.
Je crois que la seule obligation, c'est de nommer un président de l'Assemblée nationale. C'est la seule obligation que le gouvernement a, pas que le président a.
Oui, mais quant au gouvernement, on peut très bien, puisque rappelons-le aussi, hein, et ça c'est intéressant aussi toujours quand on parle à un public aussi qui est familier avec d'autres types de régimes démocratiques et parlementaires. En France, le gouvernement, et le Premier ministre inclus, est nommé. Il n'est pas pris parmi les députés, forcément, de l'Assemblée nationale. Donc, on peut très bien avoir une Assemblée nationale, une présidence de l'Assemblée nationale, et puis après, justement, des consultations pour nommer un gouvernement et choisir, par exemple, la bonne personne qui ferait consensus si, par exemple, on veut quelqu'un du bloc central. Donc, moi, je crois que non seulement ce n'est pas une obligation de nommer de suite un gouvernement, mais puis, comme vous l'avez dit, au regard de l'organisation des Jeux Olympiques, au regard de la complexité aussi de former ce nouveau gouvernement, je crois que le président de la République va certainement, non pas temporiser, mais au moins prendre le temps de la réflexion pour être sûr de ne pas entrer dans une crise institutionnelle et d'avoir un gouvernement, j'allais dire, qui reflète aussi les aspirations des Français et qui aussi permettra à la fois au gouvernement et au Parlement de travailler ensemble.
Est-ce que le coup de poker d'Emmanuel Macron a marché?
Alors, on a un élément, presque similaire hein, dans la vie politique française actuelle en termes de dissolution. C'est Jacques Chirac en 1997 qui, pour avoir une majorité plus forte, fait une dissolution et puis, manque de chance, en fait, il se retrouve avec un gouvernement de cohabitation, une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, Lionel Jospin, etc. On connaît l'histoire.
C'était la seule fois, d'ailleurs. C'est la seule fois de l'histoire française aujourd'hui, encore aujourd'hui.
Emmanuel Macron, lui, était déjà en difficulté. Donc, en fait, il était déjà un peu évident qu'en appelant à une dissolution, à des élections législatives anticipées, il n'allait pas avoir une assemblée renforcée et avoir un groupe plus fort à l'Assemblée nationale. Donc, je ne crois pas qu'il ne faut pas prendre la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron comme, j'allais dire, quelque chose pour obtenir le même résultat que Jacques Chirac, puisque les situations, si elles sont similaires en termes de processus de dissolution, le contexte géopolitique n'est pas du tout le même. Donc, la question de savoir si, est-ce qu'après l'Assemblée sera plus facile, enfin, le fonctionnement de l'Assemblée marchera mieux avec un nouveau groupe, je pense que c'est là où on verra si le coup de poker d'Emmanuel Macron est réussi ou pas. Parce que si, par exemple, ni le Nouveau Front Populaire, ni le Rassemblement National n'arrivent à avoir de majorité à l'Assemblée nationale et que, in fine, on a un groupe, un bloc central, encore une fois, allant des Républicains qui ne se sont pas alignés sur la position de Ciotti, via Horizon, via Renaissance et jusque peut-être aux sociaux-démocrates, et pourquoi pas même un groupe PS qui voudrait se détacher, puisque rien n'oblige le PS à s'allier au sein de l'Assemblée nationale à l'extrême gauche. Si Emmanuel Macron arrive à avoir ce bloc central composé de plein de différentes sensibilités, sur un modèle, Christophe, d'ailleurs assez européen, puisque ce qui permet à l'Union européenne de fonctionner au Parlement, c'est d'avoir le PPE, les sociaux-démocrates et le groupe Renew, qui est Renaissance au Parlement européen, et de faire des compromis à chaque texte. Et moi, je crois que c'est ça que vise un peu Emmanuel Macron. Donc, je pense que son coup de poker, il est extrêmement risqué, il est extrêmement dangereux. Mais s'il y arrive, oui, il sera réussi. Par contre, si un des extrêmes accède à cette majorité, et en l'occurrence, cette majorité absolue à l'Assemblée nationale, là, le coup de poker aura été très risqué et sera un échec.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de se placer dans le cadre où, admettons que le Rassemblement national arrive en tête des voix, mais donc n'a pas la majorité parlementaire pour former un gouvernement et qu'il y a une alliance, c'est ce qu'on tente d'écrire, une alliance contre justement la création de de la nomination, en tout cas de ce Premier ministre du côté du Rassemblement national. Quand on est Jordan Bardella, qu'on est à la tête d'un parti comme ça, qui a fait un énorme gain de popularité, en tout cas dans les urnes, comment on explique à ces 10 millions de votants qu'on est le premier parti de France, on est au poste du pouvoir, mais en fait, on n'est pas au pouvoir. Comment eux vont pouvoir faire tourner ça d'un côté positif pour eux en évitant à moitié une guerre civile parce qu'il y a un vrai danger d'incompréhension de la part des électeurs du Rassemblement national.
Vous l'avez, en fait, la réponse, c'est un peu dans votre question, Christophe, vous l'avez mentionné, en fait, on l'explique de moins en moins bien.
Comme toujours, un peu, en fait.
Non, mais on l'explique de moins en moins bien. D'abord, une des raisons de l'organisation et du scrutin qu'on en ce moment pour les élections législatives, le fait qu'elles existent comme elles existent, ces élections, c'est pour éviter la montée des extrêmes. Donc déjà, ça veut dire qu'en fait, les élections, elles sont organisées pour essayer de ne pas permettre aux extrêmes d'arriver au pouvoir. Deuxièmement, les processus...
C'était justement d'ailleurs à la proportionnelle, c'est ce que vous voulez dire.
Oui.
Si le vote était à la proportionnelle, le Rassemblement national ou le Front national avant aurait déjà
une marée de députés depuis très longtemps. Donc en fait, vous l'expliquez de moins en moins bien aux gens qui votent pour l'Assemblée nationale, puisqu'en fait, vous conservez un nombre restreint. Enfin, l'occurrence, il sera beaucoup moins restreint qu'aux dernières législatures, mais vous conservez un nombre restreint de députés RN de manière complètement artificielle. Et puis le deuxième élément, Christophe aussi, c'est quand même ce principe de Front républicain de désistement, où on le voit bien, ça reste quand même, et encore plus pour des électeurs et des sympathisants du Rassemblement national, ça reste des choses qui sont complètement artificielles. Le fait de se désister alors qu'on pourrait aller au second tour pour ne pas prendre le risque qu'un autre parti soit élu, vous êtes un électeur du Rassemblement national, c'est quelque chose que vous comprenez de moins en moins bien. Donc je ne crois pas que ce soit du côté de Jordan Bardella qui faille expliquer ça pour ses électeurs. Je pense que les électeurs vont encore plus se déplacer pour essayer justement de passer ces barrières, encore une fois, complètement artificielles, et d'ailleurs d'alliance contre nature. Hein, quand des députés macronistes se retirent pour des LFI, c'est contre nature de manière purement politique.
Mais est-ce que tout ça, il n'y a pas le vrai risque de faire le jeu du Rassemblement national, justement, de dire que le RN peut se placer dans... le Calimero, à qui on veut faire du mal. Regardez, on est la voix du peuple français, mais on ne vous écoute pas. Enfin, tout ça, c'est un peu de l'eau au moulin du RN, quand même.
Moi, je crois que c'est complètement de l'eau au moulin du RN. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'apporter des réponses d'un point de vue politique, on utilise les mécanismes institutionnels et on utilise la tambouille, en fait, politique, pour contenir le RN. Mais puis après, quand ce sont des scrutins, j'allais dire... uninominale majoritaire à un tour, donc en gros l'élection présidentielle, on voit bien de toute façon qu'entre 2002, première fois qu'à l'époque le Front National accédait au second tour d'une élection présidentielle, et 2022, quand Marine Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle pour la deuxième fois, la progression du Rassemblement national au premier et au deuxième tour est exponentielle. Rappelons-le, 2002, on est à 12% pour Jean-Marie Le Pen. 2022, on est à 45 à peu près pour Marine Le Pen. Donc, de toute façon, les scores du Front national parlent pour eux-mêmes. Et c'est aussi ça, un des problèmes, j'allais dire, Christophe, c'est que du côté des autres partis politiques, on compte encore trop sur ces arrangements, finalement, avec les modes de scrutin, plus que d'essayer de convaincre des électeurs. Et puis, autre élément, je crois qu'il est important de rappeler, c'est que le nouveau Front populaire est déjà une alliance, encore une fois, de 9 partis politiques. Donc, il n'y a plus de réserve de voix, d'une certaine façon. Le Rassemblement national fait quand même 30% sur son propre parti, même sans Reconquête.
C'est le premier parti de France.
Parti de France. Et c'est aussi par rapport à la LFI, par exemple, c'est aussi un parti qui est représenté absolument partout et qui commence même à être représenté dans les grandes villes. Donc, je crois que si les politiques veulent inverser un petit peu la tendance, c'est sur la politique elle-même, c'est sur les réponses à apporter aux citoyens et moins sur ces mécanismes institutionnels qui, encore une fois, de toute façon, le jour où le Rassemblement national, s'il arrive au pouvoir, les changera. Puisqu'encore une fois, ça a été changé, si je ne me trompe pas, en 86, justement pour éviter que les extrêmes montent au pouvoir. Et malgré ça, les extrêmes, des deux côtés d'ailleurs, sont montés au pouvoir avec ce type d'élection.
Oui, tout à fait. En tout cas, énormément de choses à voir et à parler, je suppose, la semaine prochaine. Mais tout se jouera donc dimanche en France. Si vous êtes enregistré sur les listes électorales en Australie, bah, allez voter, c'est votre devoir civique. Donc, renseignez-vous dans vos consulats et vos états respectifs pour pouvoir exercer votre devoir démocratique. Et Nathalie et moi, on se parlera la semaine prochaine pour analyser tous les résultats, les enjeux de ce qui se passe en ce moment en France au niveau politique. Merci Nathalie.
Merci.